Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Thomas Owadenko.
C'est ça.
Qui est le patron d'Octoly. On s'est rencontrés cette année, c'est sûr, mais en février à peu près, je pense. Mm-hmm. On a bossé ensemble, donc juste pour que les gens sachent quand même, cet été, j'ai travaillé un petit peu sur la stratégie d'Octoly. Et on va parler de l'influence, de là où elle vient et de là où elle va. Je pense que toi, tu es une des personnes que je connais malgré tout qui connaît le mieux le sujet, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs sur le marché de l'influence. Donc, globalement, trois typologies d'acteurs, on va dire. Il y a des listes, donc les gens qui font des listes d'influenceurs. Il y a les gens qui font de la mise en relation avec les influenceurs qui sont plus ou moins gros, et ça va de l'agence RP qui connaissait rien au digital jusqu'à des agences spécialisées genre Icône ou Octoly là-dedans aussi d'ailleurs, on peut le dire. Et puis après, il y a le troisième truc qui sont les IRM, donc tout ce qui est relations influenceurs. La plus connue, ça reste Tracker, je pense, sur le sujet. Donc en fait, le marché s'est vachement segmenté, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Pour toi, c'est vas-y,
on n'est pas dans la même case qu'Icône parce qu'on n'est pas une agence, hein, on est une plateforme et une vraie boîte techno.
Ouais, ça, c'est une vraie grosse différence.
C'est une très grosse différence, mais on évolue par rapport à une boîte comme Icône dans l'univers de la beauté et de la fashion et donc de la femme, avec une approche assez différenciée de ce qu'on peut voir du marché aujourd'hui.
Pourquoi on parle autant de la micro-influence d'ailleurs? En quoi c'est important par rapport à des filles qui ont une audience qui est plus large? Qu'est-ce qu'elles apportent, ces filles?
Parce que c'est l'engagement, en fait. À la fin, une vraie mesure, c'est pas juste des vues, en fait. Les gens et les marques essayent d'aller plus loin et de créer une relation. Et donc, en fait, elles ont un engagement bien plus grand qui paraît assez naturel en se disant, tiens, quand elle a 200 abonnés, elle peut leur répondre. Ou 5000 abonnés, elle peut encore leur répondre. Quand on a 1 million, tu peux plus leur répondre. Et nous, on démontre que, en fait, l'engagement, il est plus fort, 4 fois plus fort sur les micro-influenceuses que sur les gros. Mais de quel engagement on parle? C'est pas juste les likes, ce sont les commentaires.
D'accord.
Donc, c'est vraiment des gens qui vont aller parler à l'influenceuse et qui vont interagir avec elle. Et qui vont interagir autour du produit qu'elle a featuré.
Et puis, en cumulé, je me souviens d'un chiffre que j'avais vu, qui était que plus de la moitié des vues sur YouTube, des 2/3 même, sont faits par des micro-influenceuses.
C'est
ça.
Ouais, c'est une grosse pyramide, c'est un gros Hollywood avec une base très, très élargie.
C'est ça, ouais. En fait, donc, du coup, c'est en ça qu'elles sont intéressantes. Après, la problématique, c'est comment j'arrive à choper toutes ces filles. Enfin, c'est principe. Bon, on parle de beauté, donc là, on parle de filles. C'est pas nécessairement que des filles, mais comment j'arrive à choper toutes ces personnes? Parce qu'effectivement, elles sont tellement nombreuses, je vais pas commencer à créer du lien avec tous ces gens. C'est impossible. Et en fait, c'est ce que vous permettez.
Alors, j'ai juste corrigé sur le mot choper, mais comment on met en relation, en fait, ces marques avec un nombre très très grand d'influenceuses? C'est impossible de leur faire un brief, de travailler parce que ça n'aurait pas assez de résonance. Et le meilleur moyen, finalement, c'est de leur remettre ces produits entre les mains parce qu'elles se les achetaient avant, elles en parlaient. Et là, c'est le meilleur moyen de reacher le consommateur, premier point, la consommatrice, et finalement de mieux contrôler, identifier ce qui se passe à l'intérieur.
Ouais. Comment tu vois l'évolution du marché de l'influence, en particulier quand on regarde ce qui se passe en Chine? Alors, je sais que j'insiste un petit peu sur ce podcast en disant faut regarder la Chine, faut regarder la Chine. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe en Chine. Ce qui se passe en Chine, ce qui se passe avec Amazon. Parce que moi, ça, c'est des mouvements qui... Enfin, j'ai l'impression que ça montre le futur de l'influenceur marketing. Et ça, les marques l'ont pas bien saisi. Encore.
Le phénomène est clairement majeur, de l'influenceur marketing, parce que c'est juste les barrières à l'entrée d'un marché qui était structuré autour du marketing qui se sont effondrées.
Ouais.
C'était la télé et la presse, et c'était que les grands groupes qui avaient accès. À partir du moment où les barrières sont tombées, reacher le consommateur et lui vendre des choses, ça devient beaucoup plus simple, et ça se fait à travers les influenceuses. Et en fait, Amazon, ils ont compris que c'était une source de trafic et une source de vente, et ils ont récemment ouvert leur programme d'affiliation où, en fait, chaque influenceur peut créer sa boutique sur Amazon. Donc, déjà, quand on peut créer sa boutique sur Amazon, j'ai featuré ses produits sur mes réseaux sociaux et puis sur Amazon, je peux les vendre pour que mon audience puisse continuer.
Donc, donc comment ça marche, elles sont payées
Alors, c'est de l'affiliation, donc c'est le modèle qu'Amazon privilégie depuis le début, et y a un modèle d'affiliation qui est mis en place, et là où ils sont très intelligents, c'est qu'ils disent aux influenceuses, outre le fait qu'on va vous donner de l'argent, on va aussi vous fournir de la data, vous influenceuses, pour mieux adresser vos prochaines photos ou vos prochaines vidéos qui vont vous permettre de vous améliorer. Parce que si elles cliquent sur un lien en dessous de ma photo Instagram, j'arrive sur le produit, c'est un signe très fort de l'engagement, évidemment, ce qui va permettre aussi à l'influenceuse de se professionnaliser à travers la data, parce que quand elles veulent grossir, ben forcément, elles sont obligées d'avoir de plus en plus de data. Ouais. Donc ça, c'est Amazon qui est en train de scaler ça.
Et ça s'en est où? Parce que
c'est assez récent.
On ne pas beaucoup parler, en fait.
Oui, mais en fait, si tu vas sur YouTube et tu tapes influenceur Amazon programme, tu vas voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. D'accord. Et ils expliquent tous. Donc, en fait, on n'entend pas parler. Mais si tu regardes les réseaux sociaux, en fait, les influenceurs en parlent. Et donc, on font la promotion du service.
Et c'est puis, quoi? C'est en France? C'est aux US? C'est partout?
Alors, c'est partout. Moi, je le vois beaucoup aux US. Je les vois beaucoup en parler. Mais qu'est-ce que fait Amazon derrière ça pour moi? Ben, en fait, ils regardent ce qui se passe en Chine. Ouais. Et ils sont en train de prendre ce qui se passe en Chine. Sur une plateforme comme Taobao, eh bien, les influenceurs, il y a une expérience qui est encore plus aboutie que juste celle d'Amazon. C'est du live, c'est du jeu. On peut acheter avec l'influenceur et c'est un phénomène qui est multiplié par 1000 par rapport à ce qui se passe dans le West End World. Donc, en fait, Amazon, il voit que l'acte d'achat, il est plus juste une fiche produit et puis j'achète. Il est plus dans l'entertainment et ils sont en train d'essayer de rentrer là-dedans. Et en Chine, pour le Black Friday chinois, le 11 novembre, eh bien, chaque année, bah, ils grossissent le volume de transactions.
Ouais, on a beaucoup entendu parler, effectivement, des chiffres.
Enfin, plus de 22 milliards, je crois,
ouais, c'est dans
une journée.
Exactement, donc c'était complètement fou.
Et les premiers chiffres qui ressortent de cette année, c'est que, en fait, sur les 30 marques beauté fashion, il y a 7 influenceuses majeures qui sont dedans. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à peu près 25% des plus gros magasins en Chine, dans la beauté et la fashion, sont portés par des individus, en fait, qui ont créé leur marque de manteaux, de cosmétiques.
Ah, donc c'est leur propre marque?
C'est leur propre marque.
C'est même pas des influenceurs qui vendent la marque, des L'Oréal ou...
C'est leur propre marque. Et c'est incarné.
Ah, waouh.
Et ce phénomène-là arrive aussi dans le Western World, et tu vois Kylie Cosmetics, qui est la fille Kylie Jenner de la famille Kardashian, qui lance sa marque et qui en 18 mois monte une marque qui fait 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Les industriels n'avaient jamais vu ça avant. Puis tu comprends qu'il y a un industriel qui comprend ça, qui s'appelle Bernard Arnault, LVMH, avec Kendo, qui est en fait un incubateur de marque, et qui se dit, tiens, ben, je vais aller prendre une grande star, Rihanna, et je vais monter ma propre marque de beauté, qui lance sa marque de beauté massivement dans les magasins et online, relayé par ces micro-influenceuses, et qui est en train de faire une marque qui, moi, je pense, fera 500 millions, voire 1 milliard très, très rapidement, et qui dit aussi, en fait, et ça, c'est hyper intéressant, qui dit aussi aux marques qui distribuent dans les magasins de Sephora, ben moi, je sais faire, messieurs, parce que, des nouvelles marques.
Parce que c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Alors, peut-être que tout le monde connaît pas bien LVMH, mais dans LVMH, il y a Sephora. Donc, en fait, ils ont et le distributeur, et du coup, on peut se poser la question de la place des marques cosmétiques, les concurrents de LVMH et de ces marques-là, type Kendo. Quelle place va laisser LVMH à ces marques-là dans les magasins Sephora? Enfin,
On voit bien que ces groupes...
Ils en ont besoin, hein, néanmoins. Mais...
On voit bien que ces groupes-là, ils ont une digitalisation qui doit accélérer, une meilleure compréhension, parce que ça demande à changer et à évoluer. Et puis, ils rachètent aussi des marques qui sont montées. NYX en est un parfait exemple. Ouais. NYX chez L'Oréal, c'est une marque qui a été créée sur YouTube, où en fait, la marque a été hyper maligne pour lancer un concours de beauté où les influenceuses devaient ramener leur audience pour voter pour elles. Donc, ça a démultiplié l'effet d'engagement. C'est devenu un concours où les gagnantes allaient à Los Angeles, étaient diffusées en live sur YouTube. Et cette marque a fait un earned media, c'est-à-dire l'équivalent média sans rien payer, énorme. L'Oréal la rachète. Ils avaient des magasins, ils expandent les magasins dans le monde entier. C'est la prochaine boîte à 1 milliard chez L'Oréal. Ouais. Donc, ils sont obligés aussi de renouveler leur portefeuille et dans leur marque actuelle, d'intégrer toute la chaîne du marketing, de l'influenceur marketing, c'est-à-dire de la top influenceuse jusqu'à la micro. C'est là où on est.
D'accord. Ce qui est intéressant d'ailleurs comme exemple dans ces influenceuses qui créent des marques, il y a Glossier qui est, je pense, l'un des exemples les plus connus dans la beauté. Hein, mais...
Oui, il y a aussi Glossier. Donc en fait, c'est là où on voit bien que les marques ne peuvent plus être totalement à l'écoute et même dans le dialogue, en fait, plus que dans juste l'écoute avec leurs consommatrices. Parce que Glossier, c'était au départ un forum sur le gloss et ça s'est transformé en une marque incroyable où elle l'a construite, en fait, et elle le dit en écoutant, en échangeant avec ces gens-là. Ouais. Donc, en fait, beaucoup de marques sont dans l'écoute, mais en fait, nous, on croit vraiment, et d'ailleurs, on le dit à nos marques, quand vous donnez un produit à une influenceuse via notre plateforme, c'est juste le début de la conversation. Mmh. On n'est pas dans le transactionnel, il faut être dans la relation avec ces influenceuses pour l'écouter et créer des nouvelles marques.
Alors, j'ai plusieurs questions pour toi. La première, c'est... je vais te les poser les trois et puis après on verra. Mais qu'est-ce que ça implique pour les marques et pour les influenceurs cette évolution vers la commercialisation via Amazon ou via directement leur réseau, enfin admettons que ce soit Amazon. Donc qu'est-ce que ça implique pour les influenceurs, qu'est-ce que ça implique pour les marques existantes? Et le deuxième, enfin ça c'était deux questions finalement en une, et la troisième question finalement, c'est est-ce que c'est vrai uniquement dans la beauté ou est-ce que c'est vrai dans d'autres secteurs? Alors, je sais que toi t'es hyper expert sur les femmes et sur la beauté et... Enfin, le lifestyle élargi, on va dire. Mais est-ce que tu vois d'autres mouvements comme ça dans d'autres industries ?
Sur la première question, qu'est-ce que ça implique pour les influenceurs et les marques ? Pour les influenceurs, ben, ça implique, puisqu'ils sont de plus en plus sollicités et ils ont accès à tout. Nous, on aime bien dire qu'on leur donne les mêmes droits que des journalistes, hein, ouais, d'avoir les produits. Ça implique de rester authentique, en fait, de pas se faire acheter et de pas trahir la relation première avec son audience. Ça, c'est, je pense, un point important, parce que beaucoup sont payés, mais en fait, je pense qu'elles sont tellement en position de force qu'elles doivent être payées uniquement pour ce en quoi elles croient. L'influenceuse qui va prendre une marque, elle y croit pas et elle va la vendre, ça va se voir relativement rapidement, elle va perdre sa ligne éditoriale et elle va se travestir. Donc ça, c'est le premier point, et c'est l'authenticité versus quelque chose de non authentique.
Ça, c'est sûr, parce que tu perds ton audience.
Et donc, tu perds ton audience.
C'est pas vrai d'hier, ça a toujours été vrai.
Mais qui est ton actif principal. Ça, c'est le premier point. Et deux, après, elles se professionnalisent et en fonction de ça, elles arrêtent de travailler.
Parce que moi, je connais aussi... c'est du boulot, hein, de faire ça.
Travail ordinaire.
Oui. Parce que moi, je connais quand même des filles qui sont bien installées, des blogueuses. Et en fait, elles aimeraient bien créer une marque, mais mais elles savent pas comment le faire, en fait. Elles savent pas avec qui s'associer, elles savent pas exactement sur quel créneau, c'est pas leur métier.
Moi, je parlais à un gros industriel qui produit des marques de beauté, notamment pour les retailers aux États-Unis récemment. Eh bien, lui, il a été voir 8 influenceuses, et c'est les industriels qui vont vers elles de plus en plus, en fait. Hein.
Donc les industriels, c'est quoi? C'est genre L'Oréal et...
Ah non, c'est carrément des fabricants, en fait. Des fabricants qui créent des marques, par exemple, pour Walgreens ou des choses comme ça, et qui ont, eux, des facilités de production et qui commencent à aller les voir et qui les empowerent. Il y a vraiment... c'est le rôle des agents, quoi.
D'accord.
Et ils font ça.
OK. Après, qu'est-ce que ça implique pour les marques?
Pour les marques, ça implique beaucoup de choses. Hein. Ça implique déjà une organisation qui est différente, en fait. On avait beaucoup de gens qui étaient à l'achat média. Et nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est nous, on est juste une plateforme. Et vous pouvez converser avec ces influenceurs. Vous leur donnez des produits, mais vous pouvez converser. Ça implique d'avoir des ressources dédiées. Comme dans les RP, on avait des gens qui parlaient, des RP qui parlaient aux journalistes. Ben là, on parle aux journalistes. Il y a une boîte qui s'appelle Trade Dynamics qui mesure tout ça dans la beauté, le Media Value. Leur dernier rapport est très clair sur le fait que les marques et les gros groupes industriels, quand ils font de l'influenceur marketing, ils prennent des solutions, ils donnent des produits, mais ils parlent pas, ils mettent pas encore assez de ressources, même si ça commence à se déplacer. Et il y avait un ratio qui était sorti et qui, je pense, est vrai, c'est qu'il faut une personne dédiée pour gérer 300 influenceuses, une relation constante.
Donc ça, et c'est... encore, ça me paraît pas énorme.
Déjà, dans beaucoup de marques à qui on parle, c'est très très compliqué pour elles d'affecter des ressources et de changer. Hein. Elles sont toujours dans une approche très top-down, on fait la pub, on envoie et puis on attend.
Et d'ailleurs, j'ai lu un article, je pense que c'était sur le blog de Tracker, où ils expliquaient que, en fait, l'influenceur marketing, ça nécessitait de repenser ton organisation en entier, que ce soit au marketing, à la com, au RP, etc., etc. Donc, ça a des impacts qui peuvent être assez forts.
Ça a des impacts très, très forts. Et donc, ça veut dire pas être juste à l'écoute, mais dans la conversation, dans la rencontre avec ces influenceuses, parce que et arriver à décoder pour faire des marques.
Et peut-être aussi dans le partenariat, parce que si tu me dis que, par exemple, en Chine, en fait, les filles, les 7 des plus grosses boutiques, c'est des filles qui ont créé leur marque. Peut-être qu'il y a un truc aussi à faire de ce côté-là, parce que.
Bien sûr, ça implique aussi aussi de faire des partenariats. On le voit, et ça ne va. Je pense pas que ça arrête. Et alors aussi, il y a un framework que moi je pense intéressant. On parlera dans notre question, c'est souvent, en fait, ces marques qui se lancent, une grande star, une icône,
ouais.
Une grosse influenceuse ou une star, et derrière, une armée de micro-influenceuses.
Ouais.
Tu le vois bien chez Ipsy. Ipsy, c'est une boîte qui vend des box,
ouais.
Qui était en face de Birchbox, qui est arrivée après. Ils ont pris une grosse influenceuse, Michelle Phan,
ouais.
Qui était une des plus grosses influenceuses de la beauté. Mmh. Et derrière, ils ont ce qu'ils appellent Ipsy Studio. Ipsy Studio, finalement, c'est ce que fait Octoly, mais qu'on a mis dans une techno,
ouais.
Qui est une armée d'influenceuses pour relayer le message et amplifier la marque.
Ouais.
Et en fait, c'est toujours ce framework-là qu'on voit. Et juste pour info, les résultats d'Ipsy sont complètement incroyables. Ils sont un peu under the radar. Après 7 ans, ils font 30 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois.
Wow.
Et ce serait la première billion dollar compagnie
d'influenceurs.
D'influenceurs, en fait. Ouais, exactement.
En
exactement. Mais dans le direct to consumer, on le voit bien, hein, Dollar Chef Club, ça reste quand même une boîte direct to consumer.
Ouais.
On voit bien que comme les barrières à l'entrée sont tombées, bah on est rentré dans ce domaine-là de la beauté et de la fashion et du lifestyle dans un univers de start-up en fait. Mmh. Ce marché-là est devenu un univers de start-up parce que les coûts d'entrée finalement se sont effondrés.
OK. Et est-ce qu'il y a d'autres industries que la beauté qui sont touchées par ce phénomène ?
Alors, beauty, fashion, lifestyle, donc c'est certain. Dans l'électronique, c'est très très gros. Hein.
Ouais.
Le jeu vidéo, c'est énorme.
Ouais.
Et après, je pense que dans l'univers de l'homme, enfin sur Instagram,
ouais. Peut-être les mamans aussi. Hein.
Enfin, les mamans, c'est énorme. En fait, finalement, on retrouve un peu toutes les topologies qu'on avait avant. Et mais c'est hyper segmenté, hyper fragmenté et segmenté.
Ouais.
Et c'est la difficulté en fait.
Et donc tu penses que ce mouvement-là d'influenceuses qui deviennent des vendeurs, enfin ou des boutiques en elles-mêmes ou des créateurs de produits idéalement, ça va se retrouver dans chaque verticale.
Ouais, je pense. Ouais. Il y a pas de raison. En fait, le trafic est tellement énorme. Et puis même Instagram essaye de craquer ce modèle. Pinterest aussi. Les plateformes elles-mêmes, quoi. Tu vois bien que Instagram, quand ils font leur swipe sur les stories, ils drive du clic sortant. Donc ils sont pas encore dans cette démarche-là, mais ils sont en train d'étudier. Je suis certain qu'il y a beaucoup de clics qui sortent.
Ouais.
Et ils sont déjà. On est déjà. Même pour les plateformes, on est en train de passer de l'attention à l'action. C'est-à-dire que on donnait accès, elles donnaient accès aux influenceuses, à de l'audience qui likait et qui commentait. Mais maintenant, on peut faire des sondages sur Instagram.
Ouais.
On peut faire des clics sortants. Donc on est déjà dans une démarche où on va emmener les gens. Qui est une continuité entre ce que je vois, ce que je recommande, à tu peux acheter simplement
donc,
derrière.
Ce que tu sous-tends, si j'éloigne un petit peu, c'est de dire que finalement il y a une compétition entre Amazon et Facebook maintenant sur le commerce. Enfin que Facebook arrive de plus en plus dans le commerce.
En fait, il y a plus que ça. En fait,
et Google. Enfin,
ces influenceurs, ils sont en train, puisqu'ils ont pris la parole et que c'est phénoménal et que tout le monde est sur les réseaux sociaux, ils sont en train de transformer des industries. Industries à plusieurs trillions, en fait.
Ouais, ouais.
Donc, c'est un enjeu fondamental pour toutes ces plateformes de les avoir. Donc, Amazon essaye de les avoir. Snapchat en a perdu un grand nombre récemment. Mm. Et comment les faire revenir sur sa plateforme? Donc, effectivement. YouTube travaille énormément et a peur, a sorti ses stories pour répliquer à Instagram qu'il a lancé récemment. Donc, on est sur un débat qui est comment on apporte de la valeur à ces influenceurs pour se professionnaliser et toujours attirer plus d'audience. Donc, effectivement, ils sont tous en compétition pour avoir ceux qui drivent l'audience.
Donc plus sur l'audience, mais en fait c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a un mouvement de l'audience vers l'action, quoi.
Il faut les avoir chez soi pour avoir de l'audience, et puis après une fois qu'on les a, et ben avoir de l'action. Et en fait le gros enjeu des plateformes, c'est comment monétiser au mieux ces influenceuses sans leur faire perdre leur ADN finalement. Amazon, ben ils ont un biais qui est leur donner de l'argent parce qu'ils vont vendre des produits et donner une commission. Instagram demain ils peuvent se transformer en sondeurs, par exemple, auprès de ces influenceurs. Il y a beaucoup de choses qui est fait autour de la monétisation.
Génial.
C'est l'enjeu.
Cool. Merci beaucoup.
Salut.
Et alors, ce podcast s'appelle Blanc. Et si tu devais claquer la porte à quelque chose aujourd'hui, à quoi tu claquerais la porte ?
À tous les gens qui ne veulent pas avancer vers un phénomène qui est absolument là, en fait.
Évident.
Évident, en fait. Ça, je pense que...
Il y a un manque de maîtrise aussi, hein. Quelque part, moi, les clients avec lesquels je bosse, je vois bien qu'il y a un manque de maîtrise de l'influence. Ils n'ont pas encore bien compris comment tu segmentes déjà du top influenceur. À quoi sert un top influenceur? À quoi sert un middle influenceur? À quoi sert un micro influenceur? Et à tous les niveaux. Ils n'ont pas encore bien saisi. Ils peuvent utiliser des micro-influenceurs pour des top-influenceurs ou des top-influenceurs pour des micro-influenceurs. Donc, par exemple, vendre via un top-influenceur, ça peut marcher, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend du top-influenceur. Alors que les micro-influenceurs sont beaucoup plus dans la transformation. Donc, tu as quand même déjà ça qui n'est pas bien maîtrisé.
Alors, je vais préciser, si je devais faire VLAN, je pense que ce serait un VLAN aux structures qui ne savent pas s'adapter assez rapidement et former les gens à ce qui est en train de se passer parce qu'ils sont pas ils vont être responsables d'échecs s'ils ne s'adaptent pas vite, en fait. Ouais. La disruption qui s'est passée à travers les startups techno, elle va se passer dans le domaine de la beauté, de la fashion et du lifestyle. Donc ceux qui ne sauront pas prendre le train et mettre les moyens, bah, ils ne font pas leur travail, selon moi.
Ok, cool. Cette fois-ci, c'est fini.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté VLAN, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.